When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm. Incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2011 et c'est l'épisode numéro 73. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets pour tous, pas uniquement pour les geeks et les fous de technologie, mais même pour votre grand-mère. Bon, peut-être pas pour votre grand-mère, mais votre mère, je suis certain qu'elle apprécierait cette émission qui lui ferait comprendre le monde qui l'entoure. Et comme moi, je n'explique pas forcément toujours super bien, je recrute des co-animateurs qui, eux, sont extrêmement doués et ils m'aident à parler de l'actualité de ces 15 derniers jours. Aujourd'hui, j'ai deux co-animateurs tout à fait brillants en... J'allais dire en la personne, mais du coup, c'est plus tout à fait correct grammaticalement. Donc, je devrais dire en les personnes, mais du coup, ça sonne bizarre. Donc, je vais rien dire. Je vais juste dire que j'ai Lionel, notre camarade de Techno IT, ou notre... Bon, on va expliquer. Et comment vas-tu, Lionel ?
Très bien.
Parfait. Et on a également David Brage, notre camarade podcasteur également, qui se joint à nous pour la deuxième ou troisième fois, je crois, dans
deuxième
le rendez-vous.
Deuxième fois, tech, je crois. Deuxième fois.
Bonsoir, les amis. Bonsoir, David, comment vas-tu ?
Eh bien, je vais super bien.
Voilà.
Il fait beau, il fait frais, tout va bien.
Mais on discutait avec la chatroom qu'on salue aussi au passage, qui est là sur Ustream.
Bonsoir,
d'ailleurs.
Bonsoir la chatroom.
Bonsoir à vous. Ustream qui nous aide dans notre entreprise de diffusion live, puisqu'ils nous fournissent les canaux avec lesquels on arrive jusque dans vos yeux. C'est incroyable. Donc sur la chatroom de Ustream, on discutait avec eux parce que pour ceux qui nous regardent en live, on vient de faire une transition phénoménale avec Will & Co, qui était là juste avant nous sur le site NoWatch. Et il y avait chez Will & Co nos petits camarades de Polygeek, et il y a dans le rendez-vous tech notre camarade David de FreePod aussi. Donc
ben
en
voilà.
Fait, c'est une sorte de mélange fraternel et merveilleux entre NoWatch et FreePod ce soir.
Mais tu crois pas si bien dire, puisque nous faisons pas mal de choses ensemble avec toute l'équipe de NoWatch, puisqu'on fait des projections de cinéma, voilà, enfin on s'amuse bien et puis on participe les uns les autres dans les podcasts, donc c'est plutôt chouette.
C'est vrai. Ben on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, il y a le rencontre du troisième type qui s'est bien passé et vous rempilez avec un truc de folie avec
Cédric. Donc... Cédric est très très impliqué là-dedans.
Tout à fait. Bon, on en parlera à la fin de l'émission, on vous donnera des infos là-dessus. Il y a les places risquent de ne pas tout être libres à la fin, il y a une projection dans Paris à un moment, ça va être génial. Mais avant ça, on va commencer à parler de l'actu tech comme d'habitude. Avec un certain nombre de sujets, alors on a eu en fait un été tellement fou que à côté, ce qui se passe en ce moment, ça a l'air presque, bon, je vais pas dire chiant, mais en tout cas beaucoup plus calme. Hein. On a quelques infos assez agitées sur Anonymous contre les cartels de la drogue, ça c'est, pour le coup c'est un petit peu chaud.
Ils vont se brûler les ailes ces gens-là.
Oui, ça commence à devenir un petit peu étrange. Enfin, ce coup-ci ça s'est bien fini, on va vous raconter ça. Et on a aussi des histoires de Google. Alors on parle de trucs chauds, là il y en a aussi. Enfin, Google qui veut bouleverser le monde de la télé, Groupon qui a enfin fait son entrée en bourse, etc. Et d'autres petites choses. On va donc commencer avec, je dirais, le sujet le plus agité de ces quelques dernières semaines, qui était donc cette histoire de Anonymous contre la drogue. Contre les cartels de la drogue au Mexique. Alors, je risque de faire des erreurs dans ma, dans mon, mon racontage. Je suis le spécialiste des mots inventés. dans mon racontage de cette histoire, si je fais, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger, que ce soit vous ou dans la chatroom.
Non, mais je pense que tu seras abattu par le cartel de la drogue directement avant, après, donc.
C'est avant, bon. Avant que j'ai fini de raconter, en fait.
Voilà, c'est ça.
Merci Spink dans la chatroom qui me dit la narration. Donc je vais vous narrer cette histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a des guerres intestines, même pas intestines, mais presque des guerres civiles au Mexique entre les cartels de la drogue eux-mêmes et les forces de police. Et il y a eu certains membres de Anonymous qui ont étaient pris en otage. Je ne sais pas si c'était spécifiquement parce qu'ils étaient visés ou s'ils étaient pris en otage au milieu de, d'une rafle plus générale. Mais ils ont été pris en otage, en tout cas un, par un cartel de la drogue qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Zeta... Ah, damned. Je vais oublier le nom du cartel. C'est Zeta, je crois. Los Zetos.
Zeta,
oui. Ouais, Zeta. Et... Évidemment, ça n'a pas plu aux Anonymous, qui ont lancé une sorte d'ultimatum il y a une dizaine de jours à ce cartel en leur disant « soit vous libérez notre camarade, soit on va rendre public une série de plusieurs dizaines ou même plus de noms de personnalités qui collaborent avec vous, de personnalités corrompues évidemment, de la police ou du gouvernement qui collaborent avec vous. Et là, autant c'est quand Anonymous menace une société comme Facebook ou comme quelqu'un d'autre, ou à la limite même un gouvernement, d'une part, ce que peut faire Anonymous est gênant, mais n'est pas complètement, ne menace pas l'existence même de cette organisation. Et à côté de ça, l'organisation en question va bien sûr est une organisation sérieuse et respectable et va pas envoyer des tueurs pour traquer les Anonymous et les éliminer. Par contre, quand on commence à menacer un cartel de la drogue, on peut imaginer que les cartels sont ne rigolent pas du tout. Que ces menaces sont très sérieuses parce que ça pourrait avoir des effets dévastateurs sur leur business, puisque les cartels de la drogue font du business illégal, mais business quand même. Et donc, les membres d'Anonymous ont été menacés très sérieusement par les cartels. Et il faut savoir que la plupart des gens qui ont pris part à cette menace sont au Mexique. Donc, c'est des gens à qui les cartels pourraient avoir accès. Ils voulaient libérer leurs amis, en fait. Et donc, il y a eu une sorte de va-et-vient assez incertain, où on n'était pas certain si les Anonymous allaient effectivement mettre leurs menaces à exécution, ou si les menaces les menaces des cartels les avaient allaient les faire reculer. Pendant un moment, on a pensé que c'était le cas. Ensuite, il y a un jeune homme qui a annoncé que l'opération allait continuer. Un jeune homme qui s'appelle Barrett Brown, qui est désormais en quelque sorte par défaut le visage d'Anonymous, qui a donné des interviews pour expliquer la situation, et il disait quelque chose d'assez intéressant. Il disait évidemment, vous le savez, Anonymous, ils sont toujours anonymes, hein, c'est écrit dessus, comme le port salut. Et lui, donc, il a pris la parole devant la caméra et devant les micros du monde entier pour expliquer la chose, parce qu'il a dit, parce que les autres Anonymous qui risquaient leur vie au Mexique le lui ont demandé. Ils lui ont demandé de s'exprimer sur ce sujet à visage découvert pour avoir une certaine légitimité. Il y a une petite borguerie des borgueries sur les cartels ont fusé dans la chatroom. Je ne vous les lirai pas toutes. Genre on finit écartelé, c'est les cartes, elles, etc. Bref. Donc deux choses qui se sont passées ces tout derniers jours. D'abord, ce jeune homme qui a pris le visage d'Anonymous a désormais un contrat pour faire un livre, pour raconter Anonymous, un contrat assez important. Donc c'est marrant, je suis convaincu que c'est pas pour ça qu'il l'a fait, mais du coup je pense qu'il se plaint pas non plus. Et d'autre part, les cartels ont en quelque sorte cédé et en même temps continué à menacer, c'est-à-dire que ils ont libéré la personne en question. Et en même temps, ils ont dit que, ils ont annoncé en faisant cette libération que si Anonymous révélait des noms, ils tueraient 10 personnes par nom révélé.
Ouais, ils tueraient les personnes de sa famille, de ceux qu'ils ont, qu'ils ont libérés.
Voilà. C'était de la personne de la famille
du mec
qu'ils ont libéré.
Je regarde l'article qui a été fait sur lemonde.fr et ils disent si Anonymous divulgue des noms liés au cartel, sa famille en subira les conséquences.
Ouais.
Donc j'imagine que c'est l'otage libéré qui était cité juste avant. Enfin, quoi qu'il en soit, ils vont tuer des gens.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Donc c'est un point assez intéressant au niveau technologique en général, parce qu'Anonymous est issu bien sûr du monde de la technologie, mais encore plus dans la vie de ce mouvement qui est Anonymous, parce que on voit qu'ils commencent à les choses commencent à devenir vraiment vraiment sérieuses pour eux, quoi. Là ça rigole plus. Déjà ils s'étaient attaqués à des gouvernements pour certaines choses, mais c'est des questions encore plus sérieuses. On parle même plus de philosophie ou de vision de la liberté ou de la technologie. On parle carrément de questions de vie ou de mort, là. Une petite réflexion de votre part sur le sujet, peut-être ? J'ai beaucoup parlé.
Je sais pas, je laisse peut-être mon camarade commencer.
Oui. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est la menace directe, en fait, d'Anonymous. C'était assez surprenant de voir la vidéo, parce qu'il y a une vidéo qui circule avec une personne habillée en costume avec une cravate rouge, c'est toujours très impressionnant, expliquant en espagnol que bien il fallait absolument libérer la personne qui avait été enlevée par le cartel en question, sous peine de telle et telle et telle menace que tu as résumé, Patrick. Et ce qui est très étonnant, c'est la menace directe. Un cartel de la drogue, bon, en plus dans cette région du monde, ça rigole quand même pas. C'est pas des petits joueurs, quoi. Je veux dire, bon, il faut quand même. Et quelque part, c'était aussi mettre un petit peu en danger la vie de la personne qui avait été enlevée. Donc, c'est une espèce de coup de poker assez surprenante. Et enfin, tout ça, évidemment, laisse un goût assez malsain dans la bouche et ça paraît un peu plus que dangereux.
Mais au final, tu disais c'est un coup de poker. Finalement, ils ont réussi leur coup de poker parce que le type a été libéré.
Oui, tout à fait. Mais je suis pas certain que les spécialistes des personnes qui sont enlevées et des personnes qui ont l'habitude de négocier avec des malfrats soient très
satisfaits de la méthode.
Un bon regard sur cette méthode-là. Mais, bon, là, ça a payé. Mais bon.
Ouais, c'est sûr que. C'est... Vas-y.
Enfin, je pense que c'est un peu une valse en avant, en arrière, d'un côté comme de l'autre, puisque dans un premier temps, si je m'en réfère toujours à cet article du Monde, les Anonymous avaient annulé le 30 octobre leur opération cartel, avant de la relancer sous la pression des internautes. Et en fait, le type a été libéré, mais enfin, faut savoir quand même que les cartels, la guerre des cartels a fait 43 000 morts depuis la fin 2006. Et je pense que les types d'Anonymous sont pas trop rendus compte dans quel engrenage ils allaient se jeter. Ils se sont attaqués à l'église de la Scianto, ils se sont attaqués au tueur norvégien là qui a fait un massacre, à la censure tunisienne, enfin à des grandes causes, on va dire.
Là, c'était plus la même catégorie.
C'est vraiment, ils s'attaquent directement à des mafieux. Ils risquent leur peau, hein.
Tartuffe dans la chatroom dit quelque chose d'intéressant. Il dit Anonymous, c'est la culture des super-héros. Et c'est vrai que on se demande, est-ce que c'était pas un peu inconscient ce geste, d'une part, mais d'un autre côté, étant donné que une partie en tout cas, on sait jamais qui c'est exactement, mais une partie d'entre eux de cette opération étaient des Mexicains, ils savaient dans quoi, plus ou moins en tout cas, dans quoi ils s'engageaient, parce que comme tu le disais, la guerre des cartels a fait des dizaines de milliers de morts depuis les 5 dernières années, donc c'est quotidien au Mexique, on le vit au quotidien, donc c'était pas non plus des gens, tu vois, des États-Unis ou d'Europe qui étaient confortablement assis dans leur canapé, qui se sont dit ouais maintenant ça va être marrant, on va faire la guerre aux cartels. Donc c'est intéressant comme, par exemple, je sais pas, est-ce que c'est de l'inconscience ou est-ce que c'est une vraie volonté de rendre la justice, en fait ? C'est la question que je me pose.
Non, mais tu as bien résumé le truc. Hein. Le syndrome super-héros, c'est ça. Hein. C'est se sentir investi d'un pouvoir, celui de l'anonymat des réseaux Internet, pour faire pression sur des groupes qu'on considère comme dangereux, mafieux. Donc voilà. Est-ce que c'est bien réaliste? Est-ce que ça va pas avoir des conséquences encore plus graves que ce qu'ils ont essayé de faire? C'est le problème de ce genre de choses, quoi.
Pour le coup, moi, ça me semble quand même être très, très amateur comme façon de procéder.
Ah, grave.
Au-delà de leurs compétences techniques, pour tout ce qui concerne l'informatique, la protection des réseaux, etc. Là, d'un point de vue purement stratégique, ça me paraît très, très puéril comme réaction. Mais c'est pas la première fois, je trouve, que le réseau anonyme.
Excuse-moi, je t'interromps une seconde parce que tu dis ça te paraît très puéril, mais finalement, sans vouloir faire de politique facile ou de philosophie de comptoir, le mouvement qu'on voit de Occupy Wall Street et de Occupy aux États-Unis, qui est une émanation des indignés, c'est le peuple qui utilise les outils qu'il a pour exprimer son mécontentement et pour essayer d'agir. Est-ce que de la même manière, on peut pas dire que les Anonymous, en général et là en particulier, utilisent les outils qu'ils ont pour essayer d'agir sur le monde, enfin leur environnement. En gros, je suis pas certain que ça soit si puéril que ça. C'est peut-être puéril, c'est possible, mais peut-être que c'est aussi réfléchi. Ils se sont dit comment on peut faire pour faire libérer ce type-là. Ben voilà, on a ce moyen de pression, tu vois. T'es pas convaincu?
pas trop. Non, mais en même temps, ça se tient. Bon, on le saura évidemment jamais. Mais moi, j'ai l'impression d'une réaction un peu abrupte et pas très très réfléchie. La différence entre les mouvements que tu cites, les indignés, etc., c'est que les indignés sortent dans la rue à visage découvert, et moi je suis toujours très très gêné quand même quand je vois des personnes agir avec autant de moyens à visage couvert. J'aime pas, moi, cette le réseau des Anonymous. Il me met franchement très très mal à l'aise. Les causes que le réseau peuvent a priori être intéressantes et valoir le coup d'être défendues. Maintenant, je me dis toujours, s'il y a quelques personnes mal intentionnées qui infiltrent ce réseau-là avec les moyens qu'ils ont, je sais pas.
Oui, non, c'est sûr, ça peut être, enfin, ce type de choses peut être utilisé si demain ils se disent. Enfin, je sais pas, notre prochaine cible, c'est telle personne qui a jamais rien fait à perdre. Oui, là, on n'est pas dans la merde. Non, mais les Anonymous, c'est pour ça que je te dis, les Anonymous, ils sont super sympas, c'est des mecs cool, ils sont gentils, c'est comme 4chan, on les adore. Tous.
Moi, je m'en fous, j'ai arrêté TechnoIT.
Ah, mais tu annonces comme ça en deux secondes. Bon, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour des Anonymous.
En tout cas, je suis assez d'accord avec ce que dit Lionel. Moi, c'est la méthode qui me gêne un peu, c'est-à-dire que le fait de se revendiquer anonyme, même si c'est pour défendre des justes causes, c'est un procédé qui est un peu compliqué à manipuler et qui me paraît pas super clair. Donc, même si leurs intentions sont bonnes, c'est à mon avis pas la bonne méthode. Il y a des gens qui sont spécialisés pour la lutte contre les narcotrafiquants. Il y a des organisations gouvernementales. Il y a des structures juridiques. Enfin, il y a toute une batterie d'outils dans le monde pour lutter contre ça. De quel droit, et c'est encore là, on en revient au syndrome super-héros, des gens qui sont anonymes, on sait pas qui c'est, qui deviennent des vengeurs masqués, voilà, enfin ça me paraît.
Non, c'est sûr. Je crois que l'argument qu'on aurait pour contrer le vôtre serait de dire c'est finalement de la désobéissance citoyenne. Mmh. Et la désobéissance citoyenne, oui, on peut le faire à visage découvert, mais enfin. Ça marche quand même mieux, enfin, c'est plus facile à faire, parce que imaginez que les mêmes fassent la même chose à visage découvert, effectivement, ils feraient pas ça longtemps, aucun d'entre eux. Donc, l'imaginer à visage découvert, ça veut dire ne pas le permettre du tout. Donc, sans défendre les agissements des Anonymous, je me demande s'il n'y a pas une légitime, si la question n'est pas celle de la désobéissance citoyenne finalement. Si on est contre la désobéissance citoyenne, on est forcément contre Anonymous. Et si on est pour, est-ce qu'on peut pas défendre Anonymous?
C'est un vaste débat.
C'est une vaste question à laquelle on ne répondra pas ici, effectivement.
C'est dommage parce qu'elle est intéressante, cette question-là, néanmoins.
C'est sûr, c'est sûr.
Très intéressant.
Je pense qu'il faudrait la poser à un podcast philosophique. Qui veut commencer un podcast philosophique, hein, dans la chatroom? Allez-y. Ça serait intéressant. Bon, Lionel, tu as évoqué une chose. Bon, on va peut-être en parler à la fin, mais effectivement, tu as évoqué le fait que tu arrêtes Techno IT.
Oui.
Donc, en fait, mais tu arrêtes Techno IT, mais tu seras quand même de temps en temps dans le rendez-vous tech.
Ah ben, si tu me fais le plaisir de m'inviter, je serai bon, présent au rendez-vous.
Bien. Tout va bien. Oui, donc on aura les détails sur la fin de Techno IT, hélas, à la fin de l'émission. D'accord. Mais on enchaîne sur Google et la Google TV 3.1.
Alors. Wow. Quel nom.
c'est assez assez poétique comme nom. Google TV 3.1. Alors vous savez que Google a sorti sa Google TV qui est finalement une version d'Android à intégrer dans un boîtier ou peut-être même dans une télévision au gré des constructeurs et qui donne à la télé la capacité d'être connecté sur Internet de manière intelligente. Bon, c'est une box comme il y en a beaucoup, mais fabriquée par Google. Et là, à sa sortie il y a quelques mois, elle était un petit peu, même beaucoup, bon, disons qu'elle n'a déjà pas rencontré le succès qu'on aurait pu lui espérer, enfin espérer pour l'appareil. Et surtout, l'interface n'était pas vraiment très réussie. Là, avec la version 3.1, on arrive à une interface beaucoup plus léchée, beaucoup plus facile à naviguer. Et en plus, à un autre élément qui est important, c'est l'arrivée des apps, et en tout cas de beaucoup plus d'apps sur la Google TV. Donc on a un Android Market spécifique pour les Google TV qui permet à n'importe qui de développer ses apps. À côté de ça, je vais réunir deux ou trois news en même temps. À côté de ça, vous vous souviendrez sans doute que Google fait un test dans une petite ville des États-Unis pour fibrer entièrement la ville et en effet devenir
un numérique app du coin.
Un fournisseur d'accès Internet en fait. Donc c'est le deuxième élément et ce fournisseur d'accès Internet. Donc Google, je ne sais pas comment il s'appelle, Google Fibre, Google FAI, Super Google. Ils sont en train d'évaluer la pertinence de devenir en effet ce qu'on connaît très bien nous en Europe, mais qui est aux États-Unis ou en tout cas en France, mais qui est aux États-Unis est assez nouveau comme concept, c'est-à-dire un opérateur qui fait du triple play, qui va faire passer Internet et la téléphonie et la télévision. Et aux États-Unis, c'est un gros débat ou en tout cas une grosse affaire parce qu'ils n'ont pas vraiment de triple play et ce sont les câblo opérateurs qui ont quasiment le monopole de la télévision des bouquets de chaînes privées et intéressantes. Donc Google viendrait dans ce tout petit cadre piétiner leur plate-bande d'une part, et ensuite ce qu'ont évoqué certains, c'est s'essayer à ce business et voir ce que ça donnerait, soit pour le développer et rentrer vraiment en concurrence avec les câbles opérateurs, soit essayer de mieux comprendre leurs problèmes pour pouvoir mieux dealer avec eux par la suite. Troisième pièce de ce puzzle, YouTube Channels a été annoncé. C'est-à-dire qu'il y a, il y aura bientôt des. Je me demande si c'est pas déjà activé. Je suis pas certain, mais quoi qu'il en soit, non. Allô.
Non,
je ne sais pas. Justement, j'étais en train de lire la news et je suis pas sûr que ce soit encore actif. Mais
alors non, c'est effectivement, ils ont lancé une preview du site, mais c'est pas encore complètement lancé. Mais vous vous souvenez qu'ils ont racheté une société qui s'appelle Next New Networks, qui fabriquait du contenu, et ils ont aussi annoncé qu'ils voulaient mettre 100 millions de dollars dans des contrats pour développer du contenu original sur YouTube. et ils vont avoir donc des chaînes spécifiques avec des gens comme des célébrités comme Ashton Kutcher, Shaquille O'Neal ou même des sociétés comme le Wall Street Journal ou IGN qui est un magazine de jeux vidéo sur Internet, etc. etc. Donc il va y avoir des chaînes en association ou produites par Google sur YouTube, un petit peu comme la télé. On ira sur la chaîne le Wall Street Journal et on aura les émissions de cette chaîne-là. Donc, si on met tout ça ensemble, on sent qu'il y a une offensive assez claire de Google sur le marché de la télévision et on se demande forcément ce que ça va donner. Avant de donner mon avis, je vais repasser le micro à mes camarades. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Est-ce que, d'une part, est-ce que c'est intéressant et d'autre part, est-ce que c'est la bonne méthode ?
Lionel, tu veux y aller?
Vas-y, vas-y.
Eh ben merci. Écoute, j'en pense que du bien. D'abord parce que si Google fait du triple play aux États-Unis, bah on a prouvé en France que ça pouvait fonctionner. Donc il y a pas de raison que ça marche pas là-bas. Surtout que les abonnements internet aux States sont assez chers. Donc s'ils font baisser les coûts, enfin c'est ce que j'ai entendu dire, j'ai pas testé, mais s'ils font baisser les coûts avec du triple play, ils vont sûrement rencontrer un certain succès. Deuxièmement, ils ont un trésor de guerre assez considérable chez Google. Va falloir qu'ils s'en servent à quelque chose, et investir dans le contenu et la communication, c'est probablement pas un mauvais pas à faire. Voilà, ils ont YouTube qui est prêt, enfin aujourd'hui YouTube est absolument prêt à faire des chaînes de télé à la demande. Enfin je veux pas dire que No Watch a devancé YouTube dans le principe, mais c'est un peu ça.
Oh, on n'était pas les premiers en plus, mais justement, est-ce qu'on se dirait pas bon sang, ils vont nous bouffer notre audience?
Mais non, parce qu'ils auront pas Patrick Béja. Donc
il suffit.
Non mais voilà, c'est l'important, c'est les gens qui font le contenu. Maintenant que Google se lance là-dedans avec des moyens considérables, et donc ils auront les majors, les stars, etc., etc., c'est très bien. C'est probablement, ils vont sûrement être suivis par d'autres. Et je pense que Apple, avec son Apple TV, a la même idée en tête. Bon, maintenant que Steve est plus là pour peut-être donner les directives, ça va peut-être être plus compliqué. Mais moi, j'aime beaucoup l'Apple TV. Je pense que la Google TV, c'est aussi un bon principe. Et moi, je les sens puissants dans ce domaine.
Lionel?
Ouais, tout pareil. En effet, concernant YouTube, bon bah YouTube c'est du contenu, c'est déjà du contenu, c'est beaucoup de contenu. Maintenant, ce que veut Google, c'est faire la chasse à la qualité du contenu. Avec des chaînes, quand on va voir sur le preview de ce qui va se faire, des chaînes comme TED, comme Slate, etc., ça va être, à mon avis, c'est vraiment très très bien. Mais l'analogie avec No Watch, elle est pas si idiote que ça, hein. Le fait de faire du contenu.
Je te remercie.
Cette analogie, oui, j'ai perdu le fil du coup.
Elle est pas si bête que ça, le fait de
intéressant,
faire...
voilà. Le but, c'est qui disait sur le, c'est Isotark qui disait sur la chatroom, ça va donner une LOL Cats TV, quoi que ce soit.
Oui.
Mais c'est, on peut se poser la question, hein. Maintenant, ce que veut Google, c'est arriver à faire quelque chose de qualité.
Bah, à vrai dire, la LOL Cats TV, on l'a déjà plus ou moins. C'est YouTube, c'est une machine à LOL Cats, donc.
Absolument. Oui. Absolument. Donc, mais c'est cette image-là qu'ils veulent, que Google doit se débarrasser. Et ensuite, si Google réussit aussi bien sur le marché publicitaire à la télévision, entre guillemets, qu'elle a réussi sur le net, ça va faire très 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 mal.
Ouais, ça c'est vrai. Ils sont très
bien
forts.
Sûr. Oui, parce qu'il faut pas oublier effectivement que le but de Google, c'est de faire de la pub finalement.
Exactement,
c'est leur business model.
C'est le cœur de métier du.
Donc, moi, je suis un petit peu. J'ai deux dans une tendance assez orwellienne et 1984 j'ai deux flux de pensée en parallèle qui sont contradictoires mais qui coexistent parfaitement bien dans mon esprit. D'une part, je me dis est-ce que ça peut même réussir, parce que finalement tout ce qu'ils vont faire sur YouTube, ça existe plus ou moins déjà. Alors là, ils vont produire leurs propres émissions, mais il y a déjà plein de trucs qui existent sur YouTube. Donc, est-ce que le fait de les mettre dans une chaîne et de dire, là, il y a la chaîne qui s'appelle comme ça, au lieu de devoir taper une URL, ça va changer quelque chose?
Ça va ranger un peu les choses. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, pour trouver le contenu de qualité, faut écouter le Walter Weekly Show. Je fais la pub pour mon ami Walter, qui va dénicher des perles sur YouTube ou sur ce genre de réseau. Aujourd'hui, la difficulté sur YouTube, c'est de trouver le bon, les choses qui peuvent nous intéresser. Si le fait de faire des chaînes, ça va un peu ranger tout ça et permettre de retrouver plus facilement les émissions. C'est pas complètement inutile.
Je crois qu'il y a effectivement une constatation qu'on fait aujourd'hui, c'est que certains ont pu se dire, et j'en fais partie, tout est sur YouTube et puis les gens vont aller chercher ce qu'ils veulent facilement. Et il y a en fait une valeur dans l'idée de se poser quelque part et de zapper. Et c'est un truc qu'on ne retrouve pas ou difficilement dans les podcasts en général ou même dans des réseaux comme No Watch. Même si on a tout qui est écoutable sur le site ou même sur FreePod, ce type de réseau, la découverte finalement est compliquée. Je suis certain que vous en avez eu l'expérience, vous fidèles auditeurs, vous êtes avec un, enfin vous avez un ami qui aime bien la technologie ou je sais pas les apps sur mobile ou d'autres sujets, et vous lui dites oui il y a tel podcast qui est super sympa, tu devrais écouter, et impossible de le faire, de le convaincre d'écouter. Même si vous savez que s'il s'y met, il va adorer, et vous, peut-être même que vous étiez comme ça pour certaines émissions, il vous a fallu énormément de temps pour découvrir une émission, même si vous saviez qu'elle était là, et finalement, vous l'avez découvert, vous l'avez apprécié. Mais donc, il y a cet aspect de découverte qui est vraiment compliqué, et qui pourrait être facilité par des chaînes, par ce principe de la zapette, de chaînes, et de trucs comme ça. Et il y a un autre... Oui, pardon, vas-y.
Excuse-moi, ça me fait juste penser à une anecdote. En plus, il y a cet aspect de, je sais que c'est en ligne, je sais que c'est sur YouTube, donc je sais que je peux aller voir. Après, c'est tellement compliqué parfois pour trouver ce qu'on veut qu'on a tendance à la fainéantise, et du coup, on se dit que c'est là, mais on n'y va pas malgré tout. Et ça me fait penser, on sort un petit peu de la sphère technologique, un magicien extraordinairement connu pour ceux qui s'intéressent au domaine, qui s'appelle Fred Capps, disait, si vous voulez conserver un secret, publiez-le. Faites en sorte qu'il soit dans un livre ou en vidéo. La vidéo n'existait pas à son époque, mais publiez-le, parce que la tendance à la fainéantise des gens va faire que finalement il sera conservé.
Moi j'irai un petit peu plus loin que par rapport à l'exemple de Lionel. Mon épouse est musicienne, c'est une pianiste. Pour elle, YouTube c'est une source d'information, de découverte, d'écoute qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle entend des morceaux joués par les plus grands pianistes du monde qu'on retrouve sur YouTube. Mais moi qui suis un simple quidam amateur de musique classique par exemple, je n'ai pas les noms. Je n'ai pas la connaissance des morceaux de manière encyclopédique comme là mon épouse. Et si j'avais une chaîne qui peut me faire découvrir à partir des grands noms les plus connus, des tas d'autres ramifications et d'autres morceaux et d'autres interprètes et d'autres compositeurs, ça m'aiderait. Parce que je n'ai pas la connaissance qui me permet d'aller plus loin, d'aller au-delà de ce que tout le monde connaît et des quelques grands interprètes ou compositeurs que l'on connaît. Oui. Donc c'est en ça, et c'est d'ailleurs le cas dans tous les domaines, pas uniquement la vidéo, mais par exemple, moi je suis assez versé dans le livre numérique, vous le savez. Il y a la librairie en ligne, il y a le projet Gutenberg qui permet d'accéder à tout un fonds de livres numériques gratuitement et un énorme...
Les livres libres de droit, tout à fait.
Exactement. Oui, mais il n'y a pas de tag. On peut pas retrouver par genre, par sujet, par titre. On ne peut retrouver que par auteur ou par titre de roman, quoi. Et ça, c'est vraiment gênant parce que j'ai pas la connaissance suffisamment encyclopédique pour retrouver des auteurs qui auront des sujets ou qui auront des romans qui vont m'intéresser.
Oui, c'est sûr.
Ça manque terriblement.
Par le même raisonnement, une chaîne effectivement peut aider. Tartuffe dans la chatroom dit que iTunes l'a aidé à découvrir No Watch. Effectivement, et on dit pas qu'il est impossible de découvrir, mais c'est vrai que le principe de la chaîne et de la zapette peuvent faciliter les choses, en tout cas pour certains. Je conclurai sur le sujet en disant que mon deuxième flux de pensée, c'est l'idée que en faisant ça, Google va légitimiser le contenu créé sur Internet, et en même temps, et au final dans le combat de mes deux flux de pensée, c'est celui-là qui gagne. En même temps, va légitimiser ce que nous faisons, nous, podcasteurs, c'est-à-dire créer du contenu nous-mêmes, comme on peut avec les moyens du bord, pour des gens qui sont passionnés. Et je pense que ça peut amener d'autres personnes à se dire qu'il y a des choses intéressantes créées directement pour Internet. Donc, bon, Ça, on en rêve depuis un moment. C'est pour ça d'ailleurs que nous on a créé le site No Watch. Et cette histoire de la chaîne, on veut. Bon, c'est l'un des projets de No Watch depuis longtemps. C'est l'idée d'avoir un endroit sur le site où on peut aller et voir plein de choses à tout moment de la journée. Les podcasts du groupe No Watch diffusés comme sur une chaîne de télé finalement. Mais pour aider les gens à découvrir ou les gens qui veulent mettre en fond, ou etc. Mais bon, c'est pas évident.
C'est un peu ce que fait nos amis de Pod Radio à leur petit niveau.
Tout à fait, oui.
C'est de mettre en ligne à la suite un certain nombre de podcasts. Et moi, il m'est arrivé, moins maintenant parce que je finis par connaître un peu la podcastosphère.
Ouais.
Mais au début, d'écouter Pod Radio au bureau sans vraiment y faire attention, mais juste pour découvrir de nouveaux podcasts.
Ouais, ouais, exactement. Et puis, à vrai dire, je dis ça, c'est pas nous qui y avons pensé en premier. Tweet le fait depuis très longtemps. Je sais pas s'il y a, j'imagine que sur Revision Free aussi, mais je suis pas sûr. Enfin bref, bon, voilà. C'est un petit peu le rêve, c'est que ça aide à légitimiser tout ça. Et dernier détail sur YouTube. Il semblerait, l'information est arrivée il y a peu. Il semblerait que YouTube ait signé avec une société de films pornographiques, et donc l'une de ces chaînes serait peut-être une chaîne pornographique. Et là, quand on sait que, j'imagine payante, oui. Quand on sait que la pornographie est le moteur d'une immense partie des nouvelles technologies dans les médias, on se dit qu'elle est forcément vouée, cette initiative de Google est forcément vouée au succès.
Moi, je dis que tu aurais dû commencer par ça, Patrick.
Pour intéresser les gens. Et Barberousse nous dit, le nom serait-il Booble?
Ça serait pas mal.
Et MK Taranis nous dit, The Internet is really, really great. Pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est une vidéo excellente. Et donc, on enchaîne avec un autre sujet. On revient vers HP quand même, je vais pas refaire tout le résumé des aventures de
épisode
HP.
Épisode 246.
C'est un petit peu ça.
HP.
C'est un petit peu ça. Donc,
j'ai une anecdote à propos d'HP.
Vas-y.
Je commence et j'enchaînerai dessus.
D'accord. Vas-y. Alors, ce qui se passe avec HP, le dernier épisode, ou en tout cas le dernier à cette date épisode de l'aventure de HP, c'est qu'il semblerait qu'il soit désormais, alors je ne sais pas exactement comment le tourner pour que ça ait le meilleur impact, mais ils vont finalement garder leur division PC, d'une part parce que c'est sans doute une meilleure idée que de la vendre, et d'autre part parce qu'ils ont dépensé tellement d'argent dans leur acquisition qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent pour se séparer de la division PC. C'est-à-dire que ce type l'idée de couper en deux la société telle qu'ils l'ont imaginée coûterait très cher à l'organisation, et ils n'ont plus les moyens. Donc, par défaut, ils vont garder la division PC. J'imagine que Meg Whitman, qui vient d'être mise en place à la direction d'HP, s'est aussi dit qu'il était une bonne idée de garder le business PC d'HP. Mais en tout cas, l'une des explications qu'ils ont données, c'était cette histoire de prix. Donc, c'est quand même une raison amusante pour garder la division. Et il y a aussi une rumeur, une semi-rumeur, selon laquelle ils sont déjà en train de travailler sur des tablettes sous Windows 8. Donc, c'est pas si surprenant que ça s'ils gardent leur division PC, mais ça pose encore plus la question de WebOS et de son avenir. Je crois qu'ils s'enfoncent chaque jour un petit peu plus dans sa tombe. Dans sa tombe prémature, non, premature. Sa tombe qui s'est ouverte bien trop tôt. David, t'avais donc ta.
J'ai deux choses. D'abord, j'ai une magnifique tablette WebOS qui me donne l'heure toute la journée, puisqu'il y a un mode qui affiche une magnifique horloge. Et j'avoue que
sur le touchpad, c'est à ça qu'il sert en fait.
C'est à ça que me sert mon touchpad, c'est à regarder l'heure. Bon, mis à part
entre parenthèses, Corben a détaillé sur son site il y a quelques jours une méthode pour installer Android sur votre WebOS. Je sais que beaucoup d'entre vous qui ont acheté le WebOS l'ont fait pour installer un jour Android dessus. Ça commence à arriver, c'est pas super simple
la si méthode, c'est mais c'est 2.2, c'est pas intéressant, mais si ça peut faire tourner Onecomb, ça sera
non,
déjà...
je crois que c'est Onecomb, ouais. Alors dans la chatroom, ils le savent certainement, c'est une version alpha du Cyanogen Mode, j'allais dire cryogène. Ah, c'est 2.3. Alors effectivement, c'est pas génial, c'est pas 3.1, ouais.
D'accord. Pour l'instant, ça vaut pas le coup.
Bah, c'est mieux que WebOS, hein.
Honnêtement, WebOS, par exemple, l'application Facebook.
Ah non, mais WebOS, il est génial.
Je trouve excellent.
Ah non,
mais si on utilise juste le navigateur Internet, le mail, l'application Facebook, et quelques petites applications comme ça, ça fait une tablette.
Non, mais t'as donné les deux applications qui existaient dessus, en fait. mais quand tu installes cet alpha de Cyanogen, tu as le dual boot. Donc, tu as accès aux deux toujours.
Oui, bien sûr.
Bon, voilà.
Il faut tester.
Oui, et donc ta deuxième anecdote.
Alors hier soir, je suis allé au cinéma, ça m'arrive. J'y suis allé avec Lord Ton Père, qui sort aussi de sa cave de temps en temps.
Que tout le monde a à l'esprit, c'est est-ce qu'il avait sur lui, dans le dos accroché, un immense pouce-pièce qu'il trimbalait courbé.
Tout le temps.
D'accord.
Avec son pouce-pièce, c'est
donc
normal.
Donc c'était bien lui.
Et nous sommes allés voir Real Steel, ce magnifique film sur des robots qui combattent. Et HP a dû payer très très cher, puisque tous les ordinateurs du futur sont des HP. Donc voilà pourquoi ils ne pouvaient pas abandonner la division PC, puisqu'ils annonçaient dans Real Steel, un film qui se passe dans quelques années dans l'avenir, qu'il y aurait des PC HP absolument partout, avec des écrans transparents et des interfaces absolument incroyables. Et d'ailleurs que ces robots de combat sont dirigés par des télécommandes HP, donc.
D'accord. Ouais. Est-ce que c'était des télécommandes HP sous WebOS ou pas?
Mais sûrement, ça ressemblait à des touchpads plus ou moins transparents. C'est vachement amusant. Donc, comme les deals, ce genre de deal de placement de produits sont faits 3 ou 4 ans à l'avance, puisque c'est dès les prémices des scénarios et des productions, les grosses boîtes se placent immédiatement pour apparaître dans ce genre de film. Ouais. C'est quand même assez amusant de voir la marque HP trôner un peu partout sur les ordinateurs. Après tout ce qui s'est passé cet été, ça fait sourire.
Effectivement. D'accord. Bon, bah écoutez, on va enchaîner avec notre dernier gros sujet qui est, là aussi, une sorte presque d'arlésienne de l'industrie technologique, qui était l'entrée en bourse de Groupon. Yeah. On en a parlé énormément de Groupon il y a quelques mois. Je le rappelle à ceux qui auraient vécu dans une cave, c'est cette société qui vous permet d'avoir des coupons de réduction personnalisés en quelque sorte, en tout cas pour votre ville. Tous les jours, vous recevez un coupon de réduction et vous choisissez de l'utiliser ou pas. Si suffisamment de personnes l'utilisent, le coupon est activé et vous pouvez avoir une réduction très intéressante sur un produit. C'est utile pour les consommateurs parce qu'ils ont des bons prix sur des produits qui les intéressent. C'est utile pour les sociétés qui ont des clients. Tiens, excuse-moi, je me rends compte que je t'ai même pas donné la parole sur cette histoire de HP, Lionel.
J'avais pas grand-chose à rajouter.
D'accord, ok. Bon, ok. Alors on enchaîne sur Groupon.
Désolé, Lionel, j'ai monopolisé le temps de parole de HP pour aujourd'hui.
Scandaleux, David. Et donc, Groupon, c'est aussi utile pour les sociétés puisqu'elles ont des clients qu'elles n'auraient peut-être pas attirés autrement. Il y a eu depuis quelques mois énormément de rumeurs qui disaient tout et leur contraire sur Groupon. D'une part que les sociétés n'étaient en fait pas tellement contentes des deals qu'ils avaient faits parce qu'au final ça leur avait coûté plus d'argent qu'ils ne pensaient et les clients n'étaient jamais revenus. Certains disaient que la société était en train de perdre de la valeur après une explosion de popularité énorme, que maintenant finalement ça commençait à sentir le roussi. On avait entendu qu'après un autre round de levée de fonds, les fondateurs s'étaient mis la moitié dans la poche et c'était à moitié remboursé et que enfin et c'était encaissé des sous et que donc c'était plus un pyramid scheme, une sorte d'arnaque que un vrai investissement. Enfin bref, on a tout entendu. Et d'ailleurs, la chatroom connaît bien Groupon. Tartuffe nous dit que c'est pour ceux qui aiment les massages, la manucure.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes pour les femmes, etc., etc. Donc c'est effectivement une société connue. Je coupe le suspense. Après toutes ces rumeurs et l'entrée en bourse qui commençait à sentir de plus en plus mauvais, on commençait à se dire bon sang, finalement c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, cette histoire de Groupon, c'est une arnaque et ça marche déjà plus si bien que ça. Eh ben finalement, c'était pas un si mauvais deal, puisque l'entrée en bourse a été tout à fait réussie. Juste après l'entrée en bourse, le prix de l'action qui était introduite à $20 est monté à 28, si je ne m'abuse, et même un petit peu plus. Et elle a finalement clôturé à la clôture du marché à $26, donc 30% de plus que le prix d'introduction, donc très certainement une excellente entrée en bourse et qui fait déjà de Groupon une énorme société. Donc c'est un succès pour l'entrée en bourse. Est-ce que c'est la bourse qui fait un petit peu des folies, ou est-ce que Groupon est véritablement une société qui a une grande valeur dans ce domaine?
Et
là, je vous mets sur le... David a parlé de HP, Real Steel, c'était facile, tout ça. Maintenant, la question difficile, Lionel, Groupon, okay. Ça vaut quoi? Réponds.
Donc alors, HP, non, c'est pas évident, évidemment, de répondre à cette question-là, parce que si je le savais, j'aurais peut-être acheté des actions, et puis, voilà. Mais ce qui est marrant avec la bourse, c'est que, à partir du moment où suffisamment de personnes croient en une société, tout peut arriver. Mm. Même si la société n'est finalement pas en très bonne santé. Ce qui est le cas de Groupon, puisque c'est une société qui perd de l'argent, hein, Groupon n'accumule que des pertes pour l'instant. C'est assez, moi ce qui a retenu mon attention, c'est les quelques jours qui ont précédé l'entrée en bourse, c'est quand même un petit peu les annonces un peu étranges sur les comptes avec des dépenses publicitaires qui n'ont pas été incluses dans les comptes, un chiffre d'affaires qui a été calculé un petit peu bizarrement, enfin bref.
Ah oui, il y a une série d'histoires absolument sordides.
C'est rocambolesque l'entrée en bourse de cette société. Et puis finalement, mais c'est la plus belle entrée en bourse d'une société de l'internet depuis Google. Ils ont même fait plus que Google a priori. Mais bon, c'est une société qui a, je vais regarder ça, 400 millions de dollars de pertes cumulées depuis 2008 quand même. Je suis pas excessivement convaincu par la pertinence du business model, comme on dit.
Ouais.
C'est quand même, il faut lever beaucoup de contacts, aussi bien au niveau des commerçants que bien entendu au niveau des clients, pour pouvoir arriver avec des choses intéressantes. C'est quand même 10 000 démarcheurs, 10 000 commerciaux, c'est énorme en termes de salariés.
Ils ont une équipe énorme.
Ah oui, c'est ils mettent les moyens, on va dire. Ça, c'est sûr qu'ils se donnent les moyens d'y arriver. Après, ma foi, je suis un peu sceptique, moi, quant à la qualité de ce genre d'entreprise.
Mais peut-être que c'est parce que tu n'achètes pas suffisamment de manucure, pédicure et
ça peut être ça.
Et oui, et de bains relaxants aux algues de la mer morte.
Moi, c'est uniquement la mer Égée.
D'accord, ok. T'es particulier quand même, comme puis des algues dans la mer morte, il doit pas y en avoir beaucoup. David.
J'ai testé Groupon, je me suis inscrit à une époque, j'ai fait quelques deals, j'ai acheté quelques deals, je dirais que sur la moitié des deals que j'ai achetés, il y en a une bonne moitié que j'ai pas honoré, enfin que je suis même pas allé chercher et tout.
Ah oui, mais c'est incroyable, mais ça m'est arrivé aussi, moi j'en ai acheté un, Et finalement, j'y suis pas allé, j'ai pas
voilà,
eu le temps.
Voilà, exactement. Donc c'est assez malin dans ce principe-là. Maintenant, je pense que ça rapporte plus aux commerçants qu'à Groupon. Pour eux, ça change rien en fait, qu'on aille le chercher le deal ou pas. Je trouve que c'est quand même vachement, ça ressemble vachement à du spam. Et je trouve que la façon dont ils ciblent leurs clients est quand même très aléatoire. C'est-à-dire qu'en effet, on a beau remplir un questionnaire comme quoi on est un homme, on vit dans telle région, etc., etc., on reçoit un nombre de manucures, de cures minceurs et compagnie hallucinante.
Ce qui m'a absolument... peut-être qu'ils ciblent très bien en fait, David. C'est juste toi.
Mais tu ne sais pas encore,
Patrick. mais oui, en effet. Mais enfin, ça m'a énervé.
C'est le ciblage, ciblage cure minceur de David.
Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que ça m'a énervé au bout d'un moment de pas me sentir concerné, de recevoir 6 à 7 mails par jour. Donc j'ai fini par me désabonner de Groupon. J'ai pas beaucoup d'espoir sur cette formule pour l'avenir. Je pense que les gens qui ont investi massivement là-dedans font grimper la bourse, enfin sa cotation, et qu'on a vu nombre de sociétés nettement plus fiables, telles EDF par exemple, qui se sont envolées à la mise en bourse et qui aujourd'hui ont retrouvé des valeurs, quasiment les valeurs équivalentes à au prix de départ. Voilà, je pense que Groupon, d'ici, il faudra en reparler dans 6 mois pour savoir si l'action a tenu ce niveau. Ou si elle s'est effondrée, j'espère pas pour les investisseurs.
Oui,
quant au modèle économique, pour moi, c'est comme les box cadeaux. C'est à la mode cette année. Ça sera encore à la mode l'année prochaine, probablement dans 3 ou 4 ans. Après, on verra.
Ouais. Oula, là, je m'avancerai moins sur les box cadeaux parce que ça marche très, très, très fort. Hein.
Hein, ouais, mais je sens derrière, et j'avais entendu sur BFM TV le patron des box cadeaux, qui est un type très très intéressant et très clairvoyant, mais j'ai quand même la sensation que ce genre de méthode, ce genre de produits sont des produits qui durent un certain temps, un certain nombre d'années, et après disparaissent quand la mode n'est plus là, on passe à autre chose. Groupon est une de ces autres choses, justement. C'est une des évolutions des box cadeaux qui sont apparues il y a 4 ou 5 ans. Je ne sais pas lequel précède l'autre, mais voilà, on a l'impression qu'il y a des tas de façons, nouvelles façons de nous vendre des choses, et que c'est quand même très lié à une mode, quoi.
Lionel G sur la chatroom demande c'est quoi les box cadeaux. Vous savez, ces box qu'on peut acheter dans, enfin, il y a des magasins spécialisés ou à la Fnac, au Virgin,
partout,
ce genre
en fait,
de trucs, partout,
même en supermarché.
Et oui, c'est vrai. Et donc vous achetez un box qui est un saut en parachute à offrir à un pote. Et donc vous pouvez offrir des choses qui ne sont pas juste.
Citer leur nom, hein. C'est Smartbox les plus gros. Hein.
Voilà, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Et donc vous pouvez acheter des services ou toutes sortes de choses. C'est plus simple. Oui, Wonderbox, Smartbox, il y en a plein. C'est facile. Ça vous permet d'acheter des choses que vous pourriez pas acheter forcément. Et c'est des idées cadeaux toutes simples, quoi. Evil Smurf dit je préfère les pasta box. Ok,
oui.
Effectivement. Je te comprends. Donc c'est intéressant cette analyse de Groupon, parce que autant j'ai à peu près la même, autant je me dis il y a quelque chose derrière cette histoire de Groupon. Alors, nous, forcément, j'ai eu un peu la même démarche que toi, David. Au bout d'un moment, j'ai fini par me désabonner parce que bon, les cures minceurs et les manucures, ça finit par aller. Mais le principe, en fait, c'est sur ces trucs-là en particulier, c'est peut-être juste qu'on n'est pas la cible, mais imaginez ce principe avec d'autres choses, je sais pas, des DVD, des jeux, de la musique, du matériel informatique, etc. Si c'était encore plus ciblé et qu'on réussissait à avoir des choses qui nous intéressent, nous, je pense qu'on garderait ce truc en fond, même si on n'est pas intéressé sur chaque,
Patrick...
deal, mais...
En fait, le truc, c'est, déjà, ma femme est toujours abonnée à Groupon, donc la moitié du couple est encore là. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est qu'un packaging, c'est qu'une façon de te vendre quelque chose. Derrière, il y a la même technique marketing. Je veux dire, tu disais à l'instant, si on faisait la même chose sur de l'informatique et des trucs comme ça, mais ils le font. Ils ont fait des tablettes Android toutes pourries d'ailleurs, qu'ils ont vendues à moins de 100 euros. Mais en fait, ça existe déjà chez Cdiscount. Cdiscount ne fait pas du packaging à la Groupon. Mais on retrouve du produit
bien sûr
bradé,
et ces discounts marchent très bien,
un carton,
tu vois, je veux dire, il y aurait en gros je pense qu'il y a quelque chose qu'il est possible d'exploiter chez Groupon sur ce modèle-là. Et le modèle, ils ont pas inventé l'eau chaude non plus. Ils envoient des emails, ça va, c'est pas le coup de génie de l'année. Mais le truc, c'est que sur ce type de business, Groupon est largement les plus connus. Je veux dire, aujourd'hui, on ne parle que de Groupon. Donc, je me demande si ce type de business ayant une valeur intrinsèque et Groupon étant le leader du marché et la marque que tout le monde connaît, est-ce que ça, en additionnant tout ça, on n'arrive pas à une valeur boursière? Bon, peut-être pas la valeur de Google, une meilleure introduction de Google, c'est un petit peu exagéré, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose derrière au final qui fait que cette société a une valeur intrinsèque qui existe bien? Tu vois?
C'est
et
possible.
Là, je pose la question et j'ai pas la réponse, mais.
Bah, moi, sans vouloir monopoliser la discussion, hein, Lionel, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. il va falloir qu'ils évoluent parce que aujourd'hui, je te dis, ce que j'ai l'impression, c'est que ce deal commercial, il est emballé dans un paquet cadeau qui est la formule Groupon actuelle. Essaye de transférer 10 ans dans l'avenir. Je pense que il faut absolument que leur formule évolue parce que ça va pas pouvoir perdurer comme années.
Qui
se rapproche justement d'un gros comme Google et que les deals se retrouvent instantanés à faire vis-à-vis de points chauds sur la Google Map ou ce genre de truc, clairement, il va falloir qu'ils aillent dans cette direction-là. C'est encore plus d'interactivité parce que pour l'instant, on achète un deal, le deal est validé, on reçoit le machin. Après, justement, tu vois, on en a raté.
Tu trouves qu'il manque de dynamisme, quoi.
Ouais, je trouve que c'est un peu lourdingue tout ça.
D'accord.
Ouais, en même temps, ça s'adresse au plus grand nombre, hein. Donc, le mail, c'est quand même le moyen de communication qui est accessible au plus grand nombre. Qui va regarder son Android ou son iPhone pour regarder que tel ou tel deal est disponible à tel moment, à tel endroit, au moment.
Oui, alors que le mail, c'est l'avis de notification,
C'est universel
pour l'instant, c'est très bien. Je dis juste qu'il va falloir qu'ils soient réactifs dans l'avenir parce que sinon, je leur prédis pas un avenir radieux, quoi.
Écoute, David, rendez-vous dans 4 ans pour voir si Groupon est toujours là.
Avec plaisir.
On va enchaîner avec nos news et rumeurs, la deuxième section de l'émission. Mais avant ça, on va vous parler pendant 30 petites secondes du sponsor de l'émission qui est la boutique No Watch. La boutique No Watch, vous la connaissez tous puisqu'on vous saoule avec depuis des mois. Donc si vous n'y êtes pas encore allé, vous n'avez aucune excuse. La boutique No Watch, en plus, c'est un petit peu comme les podcasts. Vous savez, je vous disais, vous dites à un pote depuis des mois, mais vas-y, écoute ce podcast, il est trop trop bien et il veut pas. Et ben là c'est pareil, allez sur la boutique No Watch, elle est trop trop bien et certains d'entre vous ne le font pas, mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La boutique No Watch, il y a plein de t-shirts et d'autres objets, des badges, des sacs, des slips, des parapluies, des sweatshirts, et c'est vrai, il y a tout ça avec les logos et les noms de vos podcasts préférés et même de ceux que vous n'aimez pas, et notamment j'en parlais dans Upload, je crois, le t-shirt Scuds. Vous savez que Scuds, c'est terminé, malheureusement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré des larmes de sang chaudes et pleines en apprenant cette nouvelle. Mais vous pouvez honorer le souvenir de ce podcast merveilleux en acquérant un t-shirt Scuds Metal. C'est le nom officiel. Et pour ça, il vous suffit d'aller sur la boutique No Watch. Et en plus, ça nous file un coup de main. Donc, d'une pierre, deux coups. Merci à vous de nous soutenir de cette manière. Et donc, on enchaîne avec les sujets de notre, comment on a appelé ça, Zap Info. À chaque fois, j'oublie. Je sais pas pourquoi, en fait, Zap Info, c'est bien, mais je sais pas, le nom ne me... Ça fait pas tilt, quoi. Donc, si quelqu'un a un autre nom à proposer, allez-y. Mais pour le moment, les Zap Info, c'est la partie de l'émission où on va évoquer des informations rapidement, des informations qui méritent peut-être un petit peu moins de discussion. Et si jamais l'information vous intéresse, l'un de vous deux, David et Lionel, vous m'arrêtez avec un buzzer dont je vous laisse le soin de faire le son.
Je t'arrête, voilà, Patrick. Le Scud, le t-shirt Scud, il est en page 6 de la boutique No Watch.
Ah, mais moi, il est sur la page 1. Qu'est-ce qui se passe?
C'est marrant, moi, je l'ai en page 6.
Boutique étrangement personnalisée. tu n'as pas l'esprit métal, visiblement.
Ah, c'est parce que c'est le normal, il est pas, oui, alors d'accord,
Ah oui, le premier. Est... Oui, c'est le premier, c'est les tout premiers, ouais.
Ah d'accord.
Bah tu parles, c'est Jérôme qui gère la boutique No Watch, donc il s'est arrangé pour mettre ses t-shirts à lui en premier.
Je vois, en effet, je vois, je le vois. Bien
ça
sûr,
n'étonnera j'avais... personne.
Il est magnifique, il est magnifique. Et puis bientôt, Jérôme... il va y avoir peut-être le t-shirt du nouveau podcast de l'ami John Plisken et Damouk.
Tout à fait. Aguiche Room.
Aguiche Room que j'ai trouvé excellent. Je permets de faire un petit aparté là-dessus.
Ah bah c'est
allez voir Aguiche Room, téléchargez-le sur iTunes. D'abord, c'est très bien fait. C'est court. C'est drôle parce que c'est évidemment Damouk et John Plisken ensemble, c'est irrésistible.
C'est forcément marrant.
Et franchement, l'idée est très bonne. Voilà, je peux pas en dire plus. Ça décrypte les bandes annonces cinéma et ils font ça avec beaucoup de talent comme d'habitude.
Merci bien pour eux. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Zap Info, machin, news, rumeurs, tout ça. J'enchaîne. Julian Assange sera a priori extradé vers la Suède puisqu'il a perdu son appel, l'appel qu'il avait fait, et il pour son histoire de viol, il sera donc jugé. Son viol, ça s'appelle pas viol par surprise, c'est viol, je sais plus le nom, mais bon, c'est un viol particulier. On en avait déjà parlé longuement. Donc voilà, il sera effectivement jugé en Suède et possiblement extradé vers les États-Unis. C'était là la deuxième conséquence qui risque de se réaliser à terme, bien sûr. Pas de bip, on enchaîne. RIM serait mûr pour un rachat. RIM, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui fabrique les BlackBerry, tout à fait. Et elle est tombée, contrairement à Groupon, la valeur boursière est tombée tellement bas ces derniers temps que la capitalisation de la société, ce qu'elle vaut en bourse, est plus faible que le total de ses avoirs, le total de ses actifs. On inclut là-dedans des patents, ça y est, j'ai oublié le nom, des
licences, patents,
les licences, les brevets.
Enfin, les brevets, voilà, merci David. Les brevets, des brevets qui sont peut-être un petit peu surévalués, mais en tout cas, il est très intéressant de voir que la capitalisation boursière est tombée tellement bas, peut-être que quelqu'un va racheter la société pour les brevets et pour d'autres technologies. En même temps, on a du mal à imaginer qui voudrait aujourd'hui de RIM, même pour... D'accord, oui.
Bah, si, moi je vois qu'une boîte pour acheter RIM, c'est HP.
tu es...
Deuxième tablette, la foutre à la poubelle.
Effectivement, ils ont peut-être des idées de recyclage. Peut-être qu'ils veulent financer un autre film, en fait, Real Steel 2.
Voilà.
Et ils se sont dit, on va mettre des RIM...
Comment elle s'appelait, la Black Book ou je sais plus comment,
la Playbook,
ouais, c'est ça.
Ouais. Et comme le dit Jean-Carole Folla, c'est dommage parce que leur prochain système d'exploitation, le QNX, est pas mal.
Ça,
du
c'est
tout.
C'est sexy comme nom, hein.
Oui, c'est vrai. Et ben il y a un X dedans. mais bon, peut-être que. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le RIM n'est pas mort, hein. C'est juste que leur capitalisation boursière a chuté de manière plus qu'inquiétante. On va sauter cette histoire. Bah écoutez, vous savez quoi, on a quelques trucs dont on pourrait parler, genre le Internet of Things que veut IBM. Oh, c'est marrant quand même cette histoire. IBM a rendu open source un protocole qui permettrait l'Internet of Things. C'est ce concept qui dit que tous les objets autour de nous seraient connectés sur Internet. Et quand on parle de milliards et de milliards d'objets, et c'est l'idée que n'importe quel objet, et on parle pas uniquement de nos objets à la maison, genre le frigo, l'aspirateur, mais carrément toutes les boîtes de céréales dans le supermarché seraient connectées à Internet, et ça permettrait énormément de choses et de technologies qui ne sont pas possibles aujourd'hui, enfin des choses incroyables, un petit peu inquiétantes à la limite, comme l'idée de traquer tout ce que vous avez dans votre panier de courses, et vous pouvez directement le payer à la sortie. Enfin, ça c'est une application basique à laquelle on pense tout de suite, mais il y a toutes sortes de d'applications possibles, et IBM a conçu un protocole dans ce sens et l'a rendu open source. Donc peut-être que on va avoir un développement de ce type-là bientôt.
C'est super intéressant. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de développer là-dessus, mais ça, cette technologie de localisation et de reconnaissance de tout ce qu'on peut porter sur soi, des objets, enfin de plein de choses, ce sont des technologies que regardent tous les majors en matière de techno, les plus grosses sociétés dans le monde. En ce moment, ils lorgnent là-dessus, mais c'est les développements les plus forts se font dans ce domaine-là. Oui. Je sais pas ce qui nous prépare, mais ça va être quelque chose. On va s'asseoir n'importe où dans un restaurant, on posera son téléphone sur la table et il sera repéré et on saura exactement où il est, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme carte de crédit sur vous. Enfin, ça, c'est clair que les choses vont dans ce sens-là, quoi.
C'est vrai. Joshua G. Pardon, ouais. Vas-y. Petite interlude, Joshua D. J'ai dit, j'attends les chiottes qui tweetent. Effectivement.
Alors, ton père les a déjà.
Lionel, oui?
Non, je sais pas. Oui, c'est super intéressant. C'est un petit peu inquiétant par ailleurs, évidemment. Je ne sais pas s'ils ont prévu des choses sur les infrastructures réseau, parce que tous les objets connectés, bonjour la saturation réseau.
C'est sûr, mais c'est justement ce protocole est censé pallier à ce type de problème. Mais bon,
d'accord.
Ouais, il est sûr que les réseaux vont devoir évoluer aussi.
Ouais. Bon, à voir.
Dans le même thème, il y a une nouvelle application, une nouvelle app de la société Square qui fait ce petit lecteur de cartes de crédit à brancher sur les téléphones pour permettre à n'importe qui d'accepter des paiements. Une application intéressante qui est une sorte une app qui garde les informations sur vos cartes de crédit et qui vous géolocalise de manière à ce que quand vous arrivez près d'un magasin que vous connaissez ou vous avez une carte de crédit spécifique du magasin. Non, une ardoise, merci Tartuffe.
Ardoise.
Voilà.
Ah, d'accord.
Donc vous gardez votre ardoise ouverte. Merci, maintenant tout le monde le dit. Donc vous avez une ardoise et vous n'avez pas besoin de sortir votre carte de crédit parce que le magasin sait que vous êtes là, il connaît vos informations, donc vous dites OK, tu le mets sur mon ardoise et vous repartez et c'est directement débité. Et c'est assez puissant parce que vous devez d'abord autoriser la transaction avec ce magasin en particulier. Si votre téléphone n'est pas à côté du magasin, eh ben ça peut pas être activé. Si quelqu'un prend votre téléphone, il faut vraiment qu'il vous connaisse pour pouvoir aller quelque part et acheter quelque chose en votre nom. C'est une technologie intéressante et vous avez, si c'est adapté par beaucoup de gens, ça pourrait être même encore mieux que le paiement sans contact. C'est le paiement sans rien. C'est juste le paiement. Vous rentrez, vous attrapez un truc, vous repartez et ça pourrait être une voie intéressante à explorer, quoi. Autre chose, un truc que vous voulez évoquer peut-être ou
tu as passé l'histoire du courrier versus Windows 8. Moi, je la trouvais croustillante, celle-là.
Bah oui, elle est intéressante. Elle est un petit peu longue à détailler, mais vas-y, hein. Si c'est un truc.
Bah,
que tu
si c'est
attends.
Ce que je pense, c'est ce dont ils ont parlé sur France Info il y a quelques jours. Je me souviens plus du nom du chroniqueur spécialiste en technologie, mais qui est très sympathique et qui a expliqué comment la courrier avait disparu, avait été mise à la poubelle par Microsoft.
Ouais.
Et comment, le projet qui n'était pas le projet Windows 8 à l'époque pour tablette, mais qui était un projet concurrent à la courrier, c'est-à-dire que d'un côté, soit Microsoft fabriquait une tablette comme l'iPad, soit il développait un OS pour tablette. Et la courrier précédait d'ailleurs de quelques mois l'iPad. Aurait pu être un très beau projet de Microsoft et franchement quand on voyait la vidéo de démonstration qui doit encore traîner sur YouTube justement
on s'était tous enflammés pour le courrier, on trouvait ça super intéressant.
C'était absolument magnifique. Oui. Et donc elle a été
fantasmée tout le monde si
ouais.
Ouais, grave. Et en fait elle a été mise au rancard, à la poubelle parce qu'elle n'utilisait pas Microsoft Exchange, quoi. C'est hallucinant, c'est-à-dire que le protocole qui permettait de synchroniser toutes les suites Microsoft et principalement au niveau du mail n'était pas à la base du développement de la courrier. Et donc quand les dirigeants de Microsoft entre autres Bill qui avait fourré son nez là-dedans alors qu'il est plus censé s'en occuper et Steve Ballmer le patron de
ouais.
de Microsoft se sont aperçus de ça et ils ont carrément pris la courrier et ils l'ont mis à la poubelle en disant non, on veut pas d'un truc qui ne s'appuie pas sur Microsoft Exchange.
Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça.
Je résume.
En fait, ce qui s'est passé, c'est une sorte de guerre de philosophie entre Jay Allard et Steven Sinofsky. Jay Allard qui est derrière la Xbox et Steven Sinofsky qui est derrière le Office en général. Jay Allard voulait créer quelque chose de nouveau, effectivement, et Steven Sinofsky disait il faut avoir Windows sur cette tablette pour qu'elle soit la plus universelle possible. Les nouveaux concepts de Jay Allard étaient intéressants, et les nouveaux concepts, l'idée de Sinofsky était intéressante aussi, et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, ils ont demandé l'avis de Bill Gates. Ouais. Bill Gates a récupéré les deux, et il a vu le courrier, il a dit « Ok, c'est pas mal, comment je fais pour envoyer un mail ?» Et Jay Allard lui a dit « Bah... en fait, on n'a pas d'application mail, mais c'est pas trop à ça que ça sert. Enfin, on verra plus tard. » Et Bill a dit, bah oui, mais enfin, vous êtes gentil, moi, si j'ai pas de mail, c'est l'une des premières choses que je veux faire avec ma tablette, c'est un mail. Donc, on rit bien de la playbook justement de RIM parce que entre autres, elle avait pas de mail. Il serait un petit peu injuste de faire deux poids deux mesures et de dire forcément le jugement qu'il a porté sur la courrier était ridicule. C'est bien sûr, moi j'étais très intéressé par la courrier aussi. J'aurais voulu voir ce que ça donnait vraiment, mais pour ceux qui se souviennent de la vidéo, c'était un truc tellement particulier avec des fonctions vraiment intéressantes, mais dans certains cas précis, pour certaines utilisations spécifiques, que je me dis, est-ce qu'il ne valait pas mieux, j'ai pas la réponse en fait, je me dis, est-ce qu'il valait pas mieux se concentrer sur un produit et le faire à fond aussi bien qu'on pouvait, plutôt que de se diluer sur deux et de sortir le courrier d'une part et ensuite, un an plus tard ou un an et demi plus tard, sortir les Windows 8 et du coup, amener une sorte de confusion chez les consommateurs. Peut-être que le courrier aurait décollé, ça serait devenu la merveille, la huitième merveille du monde. Mais si ça avait pas super bien marché tout de suite, si le champ d'application était un tout petit peu trop restreint, du coup ils sortent après la tablette sous Windows 8, ils passent un petit peu pour des charlots quoi. Donc je suis un petit peu moins catégorique que toi David sur le coup.
Non mais tu as raison, de toute façon c'est clair que dans ce coup-là Microsoft a encore une fois privilégié son implémentation professionnelle et ils ont raison. Enfin c'est ça qui les fait vivre. Donc la pure expérience utilisateur, ils en ont été un peu échaudés parce que le Zune par exemple, ça a été un échec monstrueux, alors que quand on regarde l'interface de l'appareil, elle est plutôt sympa. Évidemment, c'est ce qui a servi à développer l'interface métro.
Il faut savoir que Jay Allard, c'était vraiment un combat de titan, parce que Jay Allard, qui est à l'origine de l'interface du Zune, a infiltré son interface et sa philosophie dans tous les produits Microsoft. Parce que c'est le cas de Windows Phone, évidemment, c'est le cas de la Xbox et c'est le cas de Windows 8. Donc il a vraiment eu une influence énorme et finalement il a quitté la société après cette histoire parce qu'il était bien sûr très frustré de la décision. Donc mais ce que je veux dire en fait, c'est que je pense pas qu'ils aient pris la décision à la légère. Tu vois, c'est ça
non,
que
clairement.
Je veux.
Non bien sûr.
Il fallait voir aussi le stade de développement de la courrier parce que les vidéos qu'on a vues, c'était des vidéos
des
conceptuelles absolument qui ne représentaient absolument pas de produits physiques. On en était où au niveau du développement réel de cette tablette, donc qui aurait peut-être pris quelques années avant de voir le jour. Le marché évolue très très vite dans ce domaine-là, évidemment. Apple a planté quand même son drapeau sur la planète tablette et il est difficile quand même de planter un drapeau à côté. Donc il y a aussi cet aspect-là des choses. Et puis Windows 7, de toute manière, doit évoluer. Maintenant, c'est un OS tous les deux ans. Donc un OS aujourd'hui, les tablettes arrivant, il n'est pas totalement... c'est pas absurde de vouloir regrouper les deux, quoi.
C'est vrai. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Ce dernier sujet est tout à fait intéressant. Merci David de l'avoir mentionné. Je vais conclure les news en lisant rapidement quelques petites infos qui nous ont été réunies sur le Reddit du Rendez-vous Tech, sur reddit.com/r/rdvtech. Donc c'est l'endroit où les auditeurs peuvent aller soumettre des infos et les voter pour la leur pertinence ou les voter vers le bas parce qu'elles sont pourries. Le retour du Google Drive semble se confirmer. Il semblerait que cette ce monstre marin, enfin parce qu'il est ce monstre du Loch Ness plutôt de la technologie, reviendrait. On a quelques indices en ce sens. La fête du bonus pour les execs d'Apple qui effectivement ont eu une bonne journée il y a quelques jours de ça, sachant que leurs bonus sont en partie loqués dans le temps, donc ils n'auront le maximum que dans quelques temps. Il y a un nouveau patron, une news que j'ai trouvée intéressante, un nouveau patron pour Real Networks, et là la question que tout le monde se pose c'est mais ça existe encore Real Networks?
Oui,
c'était abusant. Donc voilà, il y en a d'autres, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Et je remercie tous ceux qui ont contribué à nous mettre ces informations, et notamment N Février, qui aujourd'hui a été le fournisseur principal des infos du jour, mais aussi Nicotine 31, Winlock, Tinus et tous les autres qui participent à au Reddit du Rendez-vous Tech. Si vous voulez faire comme eux, vous pouvez aller là-bas et vous pouvez soumettre des histoires ou simplement les voter dessus pour nous aider à les sélectionner. On y jette un coup d'œil avant de faire les sujets de l'émission. Bah, écoutez les gars, on arrive à la fin.
C'est pas mal.
C'est déjà quand même pas mal. Il y a deux choses dont je veux parler. D'une part, l'actualité de Lionel qui est triste, et d'autre part, l'actualité de David qui est joyeuse. Donc on va commencer par le triste, et puis on se remontera le moral. Après, oui, entre parenthèses, j'ai pas reçu la statosphère aujourd'hui, donc vous n'avez pas de statosphère, mais je suis sûr que Guillaume est désolé de ne pas avoir pu nous l'envoyer. Donc allez sur statosphère.fr pour avoir les informations sur les statistiques du web si vous êtes en manque. Donc pardon, Lionel,
oui.
Nouvelle triste, moment solennel,
oui.
Moment sombre.
T'as prévu une musique?
Donc malheureusement, tu n'as plus le temps de nous faire Techno IT. On le sentait un tout petit peu venir, t'as pris du retard à la rentrée, et puis tu
ah,
pouvais
grave.
Pas, t'avais pas le temps. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, en fait, j'ai du mal avec Techno IT, je vous le dis, depuis janvier de cette année, depuis le début de l'année en fait, où ça a été très très difficile d'assumer l'écriture des émissions, parce que, comme vous le savez peut-être, je l'ai déjà dit, tout est écrit, parce que je peux pas me permettre de ne pas écrire et d'être trop approximatif quand on traite de choses aussi techniques,
ouais.
Donc je suis obligé d'écrire.
Bah t'as qu'à faire comme nous, hein. On dit ce qui nous passe par la tête, c'est souvent faux, mais au moins ça prend
voilà.
moins de temps à préparer, tu vois.
C'est tout à fait ça.
Autrement, je comprends très bien d'ailleurs que t'écrives pas, évidemment, parce que le concept de l'émission de LRDV, du Rendez-vous Tech, est un peu différent. Mais même moi, si je devais faire le Rendez-vous Tech, je crois que je pourrais pas m'empêcher d'écrire des trucs. Mais c'est une façon de fonctionner qui est différente, quoi, en fait.
C'est vrai.
Bon, au-delà de ça, c'est vrai que ça me prenait quand même beaucoup de temps. Bertrand, qui est également très pris professionnellement, donc comme moi, comme on l'a compris, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie professionnelle, n'avait plus le temps de m'accompagner non plus. Plutôt que de faire languir tout le monde en disant je suis en retard. Je me suis dit bah vaut mieux arrêter et puis plutôt que de faire quelque chose qui soit pas à la hauteur de ce que j'espérais, même si Techno IT n'a jamais été à la hauteur de ce que je souhaitais.
D'accord. Ok. Bon bah écoute, effectivement, on est un petit peu triste de te voir quitter la production de la scène sur la scène podcastique. Mais par contre, j'espère que nous aurons le plaisir de te recevoir régulièrement. Tu restes invité quand tu veux. La porte est ouverte. Donc tu viens quand tu veux dans le Rendez-vous Tech.
Bah écoute, c'est très très sympa. Je profite là parce que tu vois, tu m'avais parler par mail. J'ai pas fait d'émission au revoir ou ce genre de choses, etc. J'ai pas réussi en fait à le faire. J'ai pas envie de faire un Techno IT 30 et quelques en disant au revoir à tout le monde et tout. Enfin, c'est bête, hein, mais.
Mais je comprends.
Je suis pas arrivé.
Ça peut être la possibilité de revenir.
C'est pas faux, instinctivement. Peut-être qu'il y a ça derrière.
Enfin, ouais, tu dis dans 3 ans, tu reprends comme si de rien n'était. Salut et bienvenue sur le numéro 38 de Techno IT.
Mais du coup, je vais quand même profiter là pour remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires sur le blog de TechnoIT et sur le portail de NoWatch, parce que ça fait toujours chaud au cœur de savoir que on était apprécié par certains, évidemment. Donc vraiment merci à tout le monde, merci à tous ceux qui se sont exprimés et ceux qui ne se sont pas exprimés. Et puis merci à NoWatch aussi surtout parce que...
Oh, il est gentil.
Ouais non mais c'est vrai que ça me paraît important de le faire sans sortir le violon.
Ah, il a remarqué qu'il y avait Jérôme dans la chatroom.
Ah non, même pas, j'ai pas le nom j'ai caché le pop-up des users de la chatroom. Mais alors raison de plus, il y a Jérôme. Mais évidemment, NoWatch a été un tremplin pour TechnoIT et il faut savoir s'en souvenir. Donc voilà, les numéros restent long. D'ailleurs sur le portail.
Merci. Bon bah écoute, oui, comme on le disait, de toute façon, tu ne disparais pas de NoWatch, tu seras dans le rendez-vous tech, j'espère, de temps à autre.
C'est un grand plaisir.
Et donc, nouvelle un petit peu plus joyeuse, comme tu le disais David, on a une sorte de collaboration à nouveau, et puis enfin ça ou autre chose, hein, si tu veux parler de FreePod aussi, mais...
Écoute, je vais rapidement dire que l'entente entre les podcasts de FreePod, puisque sur FreePod il y a l'apéro du capitaine, il y a l'agence Two Geeks et plein d'autres podcasts. Hein, je vais pas les citer, on est 10.
Et, ouais, moi je les aime bien, sauf l'apéro, je me désolidarise un petit peu de
oui,
ce podcast.
Mais ça, je te comprends.
Tu vois, je voilà.
Surtout les derniers, hein, c'est tombé très très bas. Mais ce que je voulais dire, c'est que on s'entend tous très bien dans ce milieu du podcast. Hein, on se voit régulièrement, on discute ensemble. On va tous, je pense, dans le même sens. Et donc l'idée m'est venue, mais c'était une envie depuis très 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 longtemps de recréer ces nuits de cinéma et ces soirées de cinéma que j'avais vécues il y a 20 ans au Max Linder quand ils avaient fait les étés du 70 mm.
Et, attends, est-ce que t'es déjà allé au festival du film fantastique à Paris?
Bah oui, celui de Mad Movies.
Oh là là, mais que de souvenirs.
Souvenir. Ça aussi, les c'est un truc qui... à refaire, ça.
Ah ouais. Ah non, mais ça, ressusciter le festival du film fantastique à Paris avec les gens qui viennent avec des sacs de riz à jeter sur les trucs, les gens qui gueulent sur le film dans Vendredi 13.
Alors dans il va Vendredi y avoir 13. Le PIF là qui va arriver à Paris. Le Paris International Fantastic Film Festival, il y avait déjà le BIF en Belgique, ouais, à Bruxelles, et le NIF à Neuchâtel, et donc et il y en a d'autres. Et il y a le PIF qui arrive en novembre, organisé par Mad Movies, avec c'est les cinémas d'opéra, je crois que c'est le Gaumont Opéra et les cinémas aux alentours d'opéra. Donc ça, on va en parler d'ailleurs la Fantasy Taverne, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, refaire vivre ces soirées où on est tous fans de cinéma, où on est tous un certain nombre de films, et les jeunes qui nous écoutent n'ont pas eu tous l'occasion de les voir sur grand écran. Et évidemment, voir un film majestueux comme Les Rencontres du Troisième Type ou comme le sont la trilogie Retour vers le Futur, qui sont bourrés d'effets spéciaux et de plans sensationnels, les voir sur une télé, même un grand écran plasma de 130 cm ou de 150 cm, c'est incomparable avec une projection dans une salle de 600 places avec un écran de 20 mètres de large, un son Dolby, etc. etc. Donc, j'en ai parlé à Jérôme quand j'avais cette idée. Jérôme a dit go, c'est une super idée, on a envie d'en faire partie. Et évidemment, j'ai dit bah très bien, on met le logo NoWatch, on met le logo FreePod sur l'affiche et il n'y a pas de problème. Et là, on refait ça avec Back to the Future. La trilogie, ça sera le 10 décembre au soir, enfin le 11 décembre au matin, c'est entre le samedi et le dimanche.
Ouais, là vous y allez hardcore, hein, vous faites les trois dans la nuit.
Mais oui, mais finalement les gens m'ont dit c'est mieux parce que comme ça on peut dormir si on est fatigué et se réveiller et prendre le métro, parce que c'est vrai que quand on a fini Rencontre du Troisième Type à 2h du matin, il y a des gens qui ont été finir la soirée dans un pub pour tenir jusqu'au premier métro. Là, on va pouvoir tenir toute la nuit. Normalement, il y aura Cédric de Geeking qui va venir. Il viendra avec plein de surprises. Il va venir avec des cadeaux. Il va venir. On va faire une grande tombola. Peut-être qu'il y aura des DeLorean qui vont venir, on espère. Peut-être qu'il y aura d'autres surprises encore. Enfin, on est en train de préparer ça. Ça va être le 10 décembre, donc au soir. Bientôt les places en vente. Je peux déjà donner un ordre de prix. En gros, ça va être 15€ la nuit avec le petit déjeuner, des boissons offertes.
Ah, magnifique.
Donc un prix raisonnable. Voilà, tout ça c'est fait entre podcasteurs. On va avoir des gens, des podcasts de NoWatch, des podcasts de FreePod, enfin de l'agence Two Geeks, de l'apéro du Capitaine, et donc Cédric probablement et John Plisken et probablement d'autres qui vont animer toute cette soirée entre les différents films. On va pouvoir discuter échanger, boire des coups, etc., etc. Donc c'est une sorte de grande IRL autour de Retour vers le futur dans la joie et la bonne humeur.
Cool. Bah écoute, j'espère que les auditeurs seront réceptifs et qu'ils viendront nombreux.
Alors malheureusement, c'est à Paris. Hein, je suis désolé. Le Max Linder est à Paris. Non, mais beaucoup de gens m'ont écrit sur Twitter pour me dire quand est-ce que vous faites la même chose en province. Go. Moi, je suis partant pour bouger. D'ailleurs, j'en parlerai avec Cédric, qui lui est en province. Peut-être on ira bouger dans un cinéma.
C'est possible, mais bon, il faut bien comprendre aussi les provinciaux. Ce genre d'événement, c'est quand même plus facile à organiser à Paris. Et puis surtout, même pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est plus facile de venir à Paris généralement que d'aller ailleurs. C'est plus central, il y a plus de transport. C'est vrai que pour les débuts, c'est plus facile de commencer comme ça. Ensuite, il est toujours possible d'imaginer d'autres choses ailleurs. Hein.
Tout à fait. Moi,
il y aura une grande tournée provinciale.
Non, mais par exemple, faire des soirées revival du cinéma qu'on aime dans les festivals. Les Suisses m'ont écrit, ils m'ont dit, mais t'as le NIF justement, le festival de Neuchâtel où nous à Bragelonne on va chaque année parce qu'on aime beaucoup ce festival. Pourquoi pas faire une soirée là-bas au cœur de ce festival de fantastique, une soirée où on passe les films qu'on aura passés c'est au vrai. Max et faire le même genre d'animation. Donc c'est possible. Vis-à-vis d'autres festivals, dans d'autres coins de France, je serais ravi de pouvoir le faire. Mais
bon,
pour l'instant,
en tout cas,
c'est le Max Linder à Paris le 10 décembre.
Le 10 décembre dans la nuit. Ok, exactement. Bah écoute, super. Donc, je vous remercie tous les deux pour votre présence. Donc Lionel, c'est @itislionel sur Twitter. Hein, on continue quand même à donner. David, je sais même plus quel est ton Twitter. C'est David Brage.
C'est @David Brage, exactement.
@David Brage. Et bien sûr, vous retrouvez David sur FreePod.
Oui, sur FreePod et sur l'agence TwoGeeks.com, qui est le podcast que j'anime en ce moment avec mon ami Post Carbone, mon ami Docteur Non et mon ami Lord Ton Père, qui a été engagé par ce podcast définitivement. voilà. Et avant qu'il donne sa démission à l'apéro, parce que tu sais ce que c'est, hein.
Ah, bah, je connais.
On peut pas trop rester dans des podcasts où il y a des stars du X qui viennent, des gens qui se désolidarisent, enfin ce genre de trucs.
Non, mais c'est très compliqué l'apéro du capitaine. Hein. Pour ceux qui écoutent, ils comprendront.
Exactement.
Mais donc effectivement, l'agence sous Geeks, FreePod, tout ça, il y a plein de podcasts super cool. Il y a aussi plein de podcasts super cool sur No Watch et
évidemment,
des nouveaux qui arrivent régulièrement. T'as évoqué à Geek Room. Pour ceux qui aiment la musique, vous pouvez découvrir La Platine, qui est une émission aussi format court et vidéo qui parle de musique et c'est pas mal foutu. C'est une émission
c'est
qui vient de nous rejoindre. C'est un ton un petit peu plus c'est toujours fait à la maison, mais c'est un petit peu plus léché, bon, même pas léché en fait, un petit peu plus traditionnel je dirais. Donc on essaye d'en faire et d'en avoir pour tous les goûts. En tout cas, La Platine, c'est une émission qui nous a pas mal plu et qui nous a rejoint. Donc on vous invite à aller la découvrir sur No Watch.
Et moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup sur Snowwatch en ce moment, que je regarde avec assiduité, c'est Slap.
Ouais.
J'aime vraiment beaucoup. Voilà.
Oui, Slap qui fait, c'est aussi format court sur les séries télé à ce moment. Donc, si vous voulez suivre l'actualité des séries télé facilement, c'est toutes les semaines. C'est l'équipe de Season 1 qui fait ça. Donc, vous l'aurez compris, il y en a plein sur Snowwatch des podcasts à suivre. Donc, on vous invite à le faire. C'est sur le site snowwatch.net. Eh ben écoutez, on arrive à la fin de l'émission, donc on va vous donner rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine avec Jeff, comme d'habitude, pour l'émission classique, entre guillemets. Mm-hmm. Et puis d'ici là, on vous fait à tous d'énormes bisous,
Des bisous,
des bisous.
Bisous.
Allez, ciao à tous.
Bonne soirée et regardez tous les podcasts de No Watch et de FreePod.
Ciao.
Bisous.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.